as to you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Poupoupidoo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Nous retrouvons en ce vendredi 29 avril sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Stéphane Furlan. Bonjour Stéphane.
Bonjour Claire.
Avec qui nous allons vous présenter son roman policier intitulé « Sans jeu ni maître » publié aux éditions Kern. Alors je voudrais tout d'abord remercier Alex qui est à la technique de cette émission aujourd'hui. Et puis, nous allons enchaîner de suite sur ce livre policier. Sans info aujourd'hui, et oui, ce sont les vacances, il fait beau, donc pas d'info. Alors, ce livre, Sans jeu ni maître, publié aux éditions Kern. Déjà, rien que la couverture attire l'œil, Stéphane. Ce sont des boules de billard.
Oui.
Et ça prend tout son sens à la lecture.
Avec, effectivement, une disparition d'un écrivain qui se passe autour d'un...
Voilà. Il y a une table de billard.
Une table de billard,
oui, voilà.
Dans une maison qui est à Toulouse.
Voilà, dans le quartier du Jardin des Plantes. On va le voir. Donc voilà, moi je parlais déjà rien que de la couverture.
Oui. Hein,
vous êtes déjà dans le livre.
Et avec un rappel un peu du jeu aussi, mais... Là, c'est un jeu de billard et on verra que dans le livre, il y a d'autres thèmes qui sont abordés.
Il y a le jeu aussi, voilà, jeu de rôle, on peut le dire. Oui. Allez, on l'annonce là maintenant. Voilà, il est question de jeu de rôle aussi dans ce roman policier. Alors, il fait suite, si on peut dire, à votre premier roman policier qui s'intitule Ville Rose Sang, qui est publié aussi aux éditions Kern.
Oui.
Et qui a reçu le prix de l'embouchure 2014.
C'est ça, décerné donc par les lecteurs du commissariat de l'embouchure, le commissariat
donc les
Toulouse.
Policiers donc lisent.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Et décernent
entre autres.
Et décernent des prix.
Et décernent des prix, ouais. Dont celui voilà de l'embouchure. Et donc ils ont tellement aimé votre premier roman policier Ville-Rossan que vous avez eu ce prix.
Oui, c'est donc, ça. J'ai été très honoré d'avoir ce prix, ce qui m'a permis d'ailleurs d'être édité, bien diffusé et d'éditer la suite.
Et de rebondir avec
le
second, ouais. Sans jeu ni maître. Alors, comme je disais, c'est une sorte de suite au premier roman, puisqu'on retrouve le personnage principal, c'est-à-dire Victor Bussy, ce sympathique et fringant inspecteur de police toulousain.
C'est ça. Et tout son petit monde, sa famille,
voilà,
ses collègues.
Voilà, sa famille, ses collègues. Et puis, alors, moi, je pense quand même qu'on peut lire les deux séparément.
Oui, c'est
possible aussi.
Les deux histoires se tiennent, peuvent être indépendantes, même
voilà.
Si il y a des éléments.
Parce que dans le deuxième, il y a des éléments du premier,
oui,
donc il y a des références au premier.
Il y a des références
roman,
et des rappels.
On arrive à se retrouver. Ouais. Hein, dans ce roman, on va nous parler de l'affaire Boudet, qui avait animé, qui était au centre de Ville-Rossan, et puis de ces cagoulés, ces fameux braqueurs très bien organisés et très rapides qui sévissent grâce à un semi-remorque et qui à la fin du premier roman avait été toujours en liberté.
Tout à fait. Oui.
Et dont Victor avait été victime dans Ville-Rossan.
Dans sa chair, oui, tout à fait.
Voilà. Ouais. Et alors donc en ce début de ce roman Sans jeu ni maître, on retrouve donc notre Victor Bussy, alors qui s'apprête à passer des fêtes de fin d'année assez mouvementées. Tant au point de vue, je dirais, professionnel qu'au niveau personnel.
C'est ça. Il y a plusieurs affaires,
facteurs,
plusieurs histoires qui s'entrechoquent pour ces fêtes-là, qui
sont des fêtes paisibles, c'est la trêve des confiseurs.
C'est ça,
voilà.
Et
là,
pas pour lui.
Voilà, pas pour Victor. Alors, il y a aussi des nouveaux personnages qui apparaissent dans ce roman, dont par exemple la belle avocate Daphné, qui vient d'ailleurs signaler à Victor la disparition de son ami Salvatore Conti, un écrivain connu et assez controversé.
C'est ça, oui, qui avançait des idées, je dirais, pas forcément dans la droite ligne des idées actuelles, qui milite pour un autre monde,
Un monde de liberté.
Un monde de liberté.
Voilà. Ouais. aussi.
Et bon, c'est tout à fait contemporain avec ce qui se passe actuellement, d'ailleurs.
Oui, c'est un peu, d'ailleurs, oui, ça rentre tout à fait, il s'inscrit dans, on va dire, dans le... Oui, oui, dans notre...
Oui, dans ces mouvements.
Dans notre actualité.
C'est ça, Nuit debout, les controverses sur la loi du travail, etc. Mais, bon, même s'il a été écrit bien avant.
Oui, tout à fait. Et on va aussi à Lisbonne dans votre roman, Stéphane. Alors, Lisbonne, avec de très belles descriptions de cette ville qui rappellera eh bien, des souvenirs à ceux qui y connaissent et puis feront découvrir donc aux autres cette belle capitale que vous aimez, que vous connaissez.
Oui, oui, j'y suis allé. J'ai passé une semaine assez formidable là-bas, enfin avec ses quartiers très typiques,
l'Alfama, qui est décrit
dans le livre, avec ce quartier très très en pente, enfin avec ses petites ruelles.
Ça rappelle bien des souvenirs, Lisbonne.
Donc, je m'en suis inspiré effectivement pour nourrir cette histoire.
Eh ben c'est très bien, ça fait plaisir. Voilà, on a de belles descriptions et ça nous fait voyager nous aussi. Alors on assiste aussi donc à la fin de des cagoulés.
Ouais.
Il va y avoir un tas de choses qui vont se passer de façon assez spectaculaire, assez
sur la mise en place un petit peu du bouquin, même si tout n'est pas expliqué en fait sur les cagoulés.
Non.
Il reste encore des questions à la fin du bouquin qui me permettront
de. Disons qu'on croit que c'est la fin, mais c'était pas la fin. Et puis c'est le début des tourments aussi, et bien comme on le disait de. Pour Victor.
Oui.
C'est la fin des cagoulés, le début des tourments de Victor.
Disons qu'il est pris un peu de... Oui, il se laisse enivrer un peu par la beauté du Portugal, je dirais.
Oui, voilà. Mais pas que par le paysage.
Voilà, c'est ça.
Alors, ensuite, donc, l'enquête sur la disparition donc, de l'écrivain. On va y assister, bien sûr, en lisant. Et donc, on retrouve justement sa collègue, la collègue de Victor Bussy, la belle scientifique du service scientifique Claire, voilà. Et puis, on va aussi dans le beau quartier, eh bien, comme on le disait tout à l'heure, du Jardin des Plantes, un quartier de Toulouse où, justement, l'écrivain disparu a une maison et qui est, bon, la maison est vide. Alors, au début, Victor, en fait, ne veut pas ouvrir cette enquête car il ne croit pas à la disparition inquiétante de cet écrivain.
Oui.
Mais en visitant la maison donc vide, il trouve un message téléphonique où il y a une menace. Mmh. Et puis après, justement, sur cette fameuse table de billard, on trouve du sang.
Oui, ça c'est la police scientifique qui détecte ce sang. Et donc, plus la disparition et pas de nouvelles de cet écrivain. Du coup,
qui est fort connu, fort médiatisé, et tout d'un coup, plus de sang,
plus
d'image.
Là, donc il faut expliquer ce qui lui est arrivé et... Voilà, il y a une des manières pour l'enquêteur Victor d'essayer de comprendre ce qui lui est arrivé.
Ah ben, il va acheter tous les livres.
Voilà, c'est de se plonger aussi dans le monde de cet écrivain.
Il ne le connaît pas du tout, cet écrivain connu.
Il l'a pas lu.
Il ne l'a jamais lu.
Qu'il est très occupé en même temps.
Oui, tout à fait. Donc, il ne le connaît pas plus que ça. Et donc, il va acheter tous ses livres. Et il va se mettre à lire notamment le dernier, qui est une autobiographie, La colline sans croix, l'autobiographie donc de l'écrivain. Et donc, il va forcément faire connaissance avec lui, et nous aussi avec, puisqu'on découvre en même temps, ce personnage complexe qu'est Salvatore Conti, alors qui est un homme engagé, plutôt révolutionnaire, on va dire, qui a une grand-mère communiste, toujours vivante d'ailleurs, avec qui il s'entend très bien, au contraire de ses parents, qu'il ne voit pratiquement pas.
C'est ça.
Alors, il a donc de nombreux ouvrages à son actif. Et puis, on apprend aussi qu'il a participé à des jeux de rôle quand il était étudiant.
Étudiant, adolescent. Voilà. Il a découvert un peu le monde de l'imaginaire.
De l'onirique
grâce à ces jeux de rôle. Et ce qui est assez marrant, et c'est ce que j'ai voulu faire ressortir dans ce bouquin, c'est... Parce que moi-même, j'ai pratiqué aussi ces jeux de rôle adolescent. Oui, sinon, je pense que je n'aurais pas parlé comme ça. C'est pour ça que ce bouquin est un peu plus intime, je pense, plus personnel que le premier. Mm-hmm. Plus complexe aussi, du coup, à écrire et à mettre
en place.
Ces souvenirs de parties de jeux de rôle qui, en plongeant le joueur dans cet univers-là... font rentrer cet univers dans les souvenirs du joueur. C'est un peu ce qu'on ressent, je pense, quand on lit un bon bouquin. c'est les images qui nous viennent à la lecture peuvent constituer des souvenirs. Et c'est ce qui se passe avec
pour ceux qui ont joué, qui ont fait des jeux de rôle. Oui,
et du coup, j'ai utilisé un peu. En tout cas, j'ai voulu faire ressortir ça, c'est-à-dire les souvenirs qu'il met dans son autobiographie, cet écrivain-là, de ces parties-là. Peuvent perdre un peu le lecteur parce qu'on dirait qu'ils sont très modifiés, mais en même temps sur mon vécu et sur comment je l'ai vécu en fait. Ça j'ai utilisé effectivement.
Et donc vous pensez font aussi ressurgir des souvenirs à ceux qui ont aussi vécu des jeux de rôle.
J'espère.
Mais en tout cas, c'est le but. Moi personnellement je n'ai jamais joué. Je n'ai jamais fait de jeu de rôle, mais ça m'a intéressée justement parce que je ne connaissais pas. Et donc là c'est un œil on va dire. Vraiment novice, sans expérience, qui a lu toutes ces descriptions, toutes ces histoires. C'est une histoire dans l'histoire.
Du coup, c'est un des intérêts qui sort un peu du classique roman policier, mais qui permet, je pense, à des gens qui, comme vous, qui n'ont pas joué, de découvrir cet univers. Et pour ceux qui ont joué, ça peut être assez amusant de se rappeler ou de confronter mes souvenirs avec les leurs. Est-ce que eux-mêmes ont vécu ont des souvenirs de parties un peu similaires à ce que Salvatore Conti raconte. C'est assez amusant d'aborder cet univers-là et après de s'en servir pour nourrir une trame aussi.
Oui, parce qu'il n'y a pas que ça. Les chapitres, on va le voir, les chapitres sont en alternance avec le monde réel, l'enquête de Victor Bussi et puis justement les chapitres avec du livre de Salvatore Conti où il raconte justement ses soirées, ses histoires, ses jeux de rôle, ce monde imaginaire, onirique qui au départ est médiéval et puis après se transforme en plus plutôt un univers de vampires
c'est vrai que les jeux de rôle permettent d'aborder tous les univers en fait j'en ai choisi quelques-uns parmi les plus classiques il y a ça et tout ce qui est médiéval c'est plutôt dans l'univers de Tolkien du Seigneur des Anneaux
et après
c'est l'appel de Cthulhu c'est tiré des écrits de Lovecraft qui sont des écrits on peut dire horreur, science-fiction. Lovecraft était un écrivain un peu tourmenté du début du XXe siècle aux États-Unis. Il est mort très jeune, d'ailleurs, à 29-30 ans, je crois.
Ah oui,
et malgré ça, il a été pas mal
très
prolixe.
Très productif au niveau de...
Mais très tourmenté aussi,
très
en
tourmenté.
Fait. Et ça, grosso modo, il décrit... Bon, c'est marrant parce que du coup, ça fait rebondir un peu avec mes écrits aussi, mais... il décrit un monde qui avec un arrière-monde et l'arrière-monde est très très tourmenté, très noir avec une logique fantastique, très cohérente avec une mythologie derrière qui tient à l'horreur.
Ça fait plein de monde, tout ça.
Oui.
Enfin, quand je dis de monde, pas de personne, mais d'univers. Ça fait beaucoup d'univers, finalement. Donc, parce que dans ce livre, déjà, il y en a plusieurs aussi.
Ouais.
C'est vrai que les jeux de rôle, ça permet de multiplier, je dirais, un peu à l'infini les univers dont on a envie, qu'on a envie de créer, où on a envie d'aller.
Mais je pense que c'est une façon les jeux de rôle, une façon intéressante d'aborder l'imaginaire différemment des livres ou des bouquins ou des films.
Le risque, qu'il ne faut pas trop, il ne faut pas être trop décalé.
Sinon
on peut être décalé par rapport à la réalité et ça peut être Alors, il y a des épisodes amusants aussi dans votre roman, Stéphane, comme par exemple quand Victor doit s'occuper de Rosa en l'absence de sa collègue de la scientifique, Claire.
C'est une jolie migale.
Oui, voilà, on s'attend à
une
tout
grosse
ça
migale.
Ça, voilà. Jolie,
ça
je
le
sais pas,
un petit
mais
peu, ouais.
Voilà. Ah oui, là j'avoue.
Elle le met un peu devant le fait accompli.
Oui, même lui, il a quand même du mal. Nous qui lisons, moi qu'on aime vraiment les migales, mais enfin moi pas du tout, donc j'ai un peu frémis aux descriptions là et en imaginant si j'avais ça chez moi. Enfin, heureusement, ce n'est pas le cas. Et puis pour l'enquête, Victor, comme je disais, donc achète les livres de Salvatore Conti et lit La colline sans croix. Et donc nous aussi, lecteurs, nous découvrons sont alors tous ces chapitres, donc, enfin, les chapitres de ce livre, qui est donc un deuxième livre dans votre roman, Stéphane, qui alterne avec les chapitres donc, de l'enquête policière menée par Victor Bussy pour retrouver justement eh bien, l'écrivain. Et cela crée, comme je l'ai dit, un décalage entre deux mondes, car forcément, voilà, on découvre ce monde onirique, le monde des jeux de rôle, ce monde imaginaire, et puis qu'il a pratiqué donc dans sa jeunesse, et puis le côté plus réel et plus concret de l'enquête policière, qui est assez ardue, parce qu'il y a plein de choses qui viennent s'entrechoquer voilà, dans cette enquête. Ce n'est pas une enquête facile. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des enquêtes faciles, mais enfin bon.
Disons que si elles sont faciles, elles sont moins intéressantes.
Oui, c'est sûr. Voilà, déjà, on n'écrirait pas un livre dessus, c'est sûr.
Et qu'est-ce que sur l'idée en fait qui m'a guidé au départ à l'écriture de ce livre, c'est un peu le nom de la rose. Ça paraît un peu décalé,
mais dans le nom de la rose,
il y a c'est une enquête policière qui tourne autour d'un livre.
Oui, c'est
en fait,
vrai.
Sans dévoiler l'intrigue non plus. J'avais envie de faire un roman policier avec la littérature en trame principale et autour d'un livre qui est cette autobiographie de Salvatore Conti. Et je me suis un peu amusé. Bon, là, c'est pas un livre empoisonné, mais c'est un livre qui a pu peut-être lui poser des problèmes.
Ah oui, et puis qui a de son importance dans ce livre, on peut le dire. Voilà, il a son importance dans ce livre. Alors, il y a aussi des allusions historiques, comme par exemple celle de la dictature argentine.
Oui.
Voilà, je vais citer celle-là, mais il y en a d'autres aussi.
C'est des choses qui touchent tous les gens qui sont engagés. Tout ce qui peut se passer quand un pays tombe dans l'extrême droite, pour le coup.
Voilà, la dictature, la non-liberté.
Les disparus aussi, les disparus qui ont résulté de ça. Effectivement, il se pose à un moment donné, le héros, Victor Bussy se demande si son pays n'est pas sur une pente un peu extrême. Alors, avec tout ce qui se passe et notamment l'extrême droite et le Front National qui est très haut dans les sondages, on peut se demander où on va aussi. Je pense.
Tout à fait. Donc il se pose des questions.
Bon, là, c'est moins rigolo. Mais...
Que nous-mêmes pouvons nous poser aussi. Ouais. Enfin, voilà, c'est tout à fait. Donc, on retrouve aussi le joli lieu depuis celle-ci, dans le Tarn-et-Garonne, qu'on avait découvert dans Ville-Rossan, le havre de paix de Victor Bussy et de sa petite famille, et où il va passer Noël. Mais ce sera un Victor un peu plus tourmenté cette fois-ci. Et puis, d'ailleurs, et pas seulement, comme je l'ai dit, à cause de son enquête, et il le dit d'ailleurs lui-même, puisque je cite « Une parenthèse enchantée dans la nuit de mes tourments ».
C'est ça.
Donc même lui se sent vraiment, il ne se
un
sent
peu
pas oppressé. Bien notre
oui, il
Victor.
Il a une période un peu difficile.
Il ne se sent pas bien dans ses baskets.
Donc il faut lire le livre pour voir s'il s'en sort. Du coup.
Ah bah oui bien sûr. Ah bah ça on va pas le dire. Hein. Non. Alors au fil de la lecture du livre en même temps de ce livre sans jeu ni maître et puis du livre aussi de l'écrivain Salvatore Conti, eh bien Victor donc découvre un homme différent. Et nous aussi, on le découvre aussi en même temps que lui, un homme différent de celui qu'il était devant les médias. Un homme beaucoup plus sympathique. En fait, il s'aperçoit que le personnage médiatisé est différent de celui qu'il découvre dans son roman autobiographique La colline sans croix.
Parce que c'est un personnage, en fait. C'est un personnage que l'écrivain se crée pour...
Voilà.
Pour notamment intéresser les médias et pour...
Oui,
et
puis pour peut-être aussi véhiculer ses idées aussi.
Et du coup, véhiculer tout à fait ses idées.
Partager
mais
ses idées.
Après, ce n'est pas nouveau. Hein, je pense que beaucoup d'intellectuels jouent de ça
vous
aussi.
Vous n'êtes pas comme...
Je ne parle pas de moi.
Ah.
Non. Je suis beaucoup plus... Enfin, j'espère. Enfin, en tout cas, beaucoup plus naturel pour le coup. Mais
vous êtes très bien, Stéphane. Alors, cette alternance de chapitres donc entre le livre de l'écrivain et ce livre et l'enquête de Victor, eh bien, entre ce monde réel et ce monde onirique, eh bien, nous fait vivre en fait au même rythme, que on découvre tout en même temps que Victor. Finalement, on découvre ce qu'il découvre sur l'écrivain, toutes les choses qu'il apprend sur lui. On est vraiment en temps réel, on est au cœur de, on a vraiment l'impression d'être au cœur de l'histoire.
C'est le but.
Cette alternance, c'est une construction originale, je trouve.
C'était la difficulté d'ailleurs d'écrire ce livre, c'était de en partant de l'envie de faire du livre quelque chose, enfin du livre, de l'autobiographie quelque chose d'important dans l'intrigue, c'est d'essayer de mettre des éléments qui peuvent nourrir l'intrigue. Donc ça c'est
oui,
c'est
qui peuvent compliqué. Servir dans le monde réel,
et
voilà,
qui peuvent servir dans
l'enquête
pour
que
l'enquête.
Mène Victor, ouais. Voilà. Tout à fait, parce que bon, par exemple, on découvre que l'écrivain Salvatore Conti a fait des études au lycée Saint-Sernin, qu'il a fait des jeux de rôle dans une vieille grange vers le quartier Borderouge. Alors quand on voit maintenant le quartier Borderouge, on se dit
il a changé.
Une vieille grange, mais où cela peut être?
Elle n'existe plus malheureusement.
Ah non, ça c'est sûr. Et puis on découvre aussi
son groupe d'amis aussi.
Pardon.
Son groupe d'amis, du coup, l'importance.
Oui, voilà, avec des noms, ils ont tous des noms.
Des surnoms. Ce qui rajoute un peu de la difficulté pour l'enquêteur.
Ah oui, il ne faut pas se mélanger.
Et pour les lecteurs, peut-être aussi un peu. Ouais.
Et puis, on découvre aussi sa rencontre, on assiste aussi à sa rencontre avec Daphné, puisqu'il la connaît en fait depuis son adolescence, Daphné, qui est devenue donc avocate, et puis leur militantisme très engagé de l'époque, que d'ailleurs, ils ont continué aussi.
Chacun continue
à sa façon.
Une voie un peu différente, mais qu'ils arrivent à retrouver.
Mais donc, on découvre aussi donc que Daphné est un personnage qu'il connaît que l'écrivain connaît depuis longtemps, depuis son adolescence, et donc leur amour aussi, puisque ils ont eu aussi une histoire, une relation amoureuse. Alors il y a aussi deux clins d'œil aussi que j'ai bien aimé, des clins d'œil culinaires là cette fois-ci. Alors avec le kiosque à Nem qui est à l'entrée du jardin du Grand Rond et qui est toujours présent.
Oui, il est toujours là.
Voilà. Et puis aussi les œufs cocottes du restaurant toulousain Le Mail qui existe aussi toujours.
Sur une petite place, vraiment très petite,
la place
mais très
du
sympa.
Mai, d'accord. D'ailleurs, la place du Mai de Toulouse, du même nom.
On peut y aller. Enfin, c'est
deux bonnes adresses.
À tout moment, mais l'été, c'est pas mal.
Voilà, ce sont deux bonnes adresses. Voilà, les NEM et les...
On a les mêmes goûts, donc.
Oui, voilà, tout à fait. Alors, on découvre à un moment dans ce livre, on découvre aussi les noms des ponts du Tarn. Alors, je ne savais pas qu'il y en avait autant.
Et encore, je ne les ai pas tous cités.
Ah oui, il y en a pas mal, effectivement. Ouais. Donc on découvre avec Victor les noms des ponts du Tarn. Et puis d'ailleurs, Victor, qui à un moment a un très beau geste, puisqu'il laisse partir une famille de sans-papiers dans son camping-car. Voilà.
C'est actuel aussi, je pense.
Oui,
la thématique des sans-papiers, des migrants.
Oui,
était actuel quand j'ai écrit.
C'est aussi au cœur de notre actualité. Alors là, on est en plein dedans.
En plein,
mais dans votre livre aussi, pourtant, c'était en
Et là, pour le coup, je l'ai écrit il y a quelques temps et l'actualité m'a rattrapé avec force.
C'est souvent ça, j'ai l'impression que l'actualité rattrape les...
Peut-être.
Oui. Alors, dans la biographie donc de Salvatore Conti, on trouve aussi qui est toujours introuvable, évidemment, cet écrivain. Victor Bussy mène une enquête, il ne le trouve toujours pas. Et donc, on apprend aussi qu'il a voyagé en Europe du Nord, même jusqu'au pôle Nord.
Très haut.
Oui, enfin, très
pas jusqu'au pôle Nord, mais en tout cas vers le Cap Nord. Oui.
Ce sont des contrées qui vous attirent
que je connais pas du tout, mais qui m'attirent, effectivement. Mais comme beaucoup d'autres régions, je pense que la terre est assez riche pour qu'on puisse aller la découvrir. Partout.
Tout à fait. Et il dit d'ailleurs, on peut lire, seul dans l'immensité, dans ce jour sans fin. On imagine quand même ces immensités glacées et ce jour qui n'en finit pas. Ça doit être effectivement quelque chose à vivre. Et puis alors donc voilà, et puis il y a aussi tout le côté mystérieux, parce qu'il y a beaucoup de suspense, vous vous en doutez, dans ce roman, beaucoup de surprises, beaucoup de rebondissements. Et alors bien sûr on ne vous racontera pas la fin, mais justement cette fin, elle fait, enfin on peut penser qu'elle a une suite.
Elle a, oui. Oui, oui, elle a une suite que je...
Elle peut inaugurer une suite.
Elle a une suite qui est en train d'être écrite, en fait. Donc il faut me laisser un peu de temps pour la finaliser. Mais
ah bon,
j'ai,
on est impatient, hein.
J'ai l'histoire en tête, le scénario est écrit.
On va retrouver Victor, bien entendu.
Voilà, il y a Victor, il y aura Serge... Serge Guéral,
qui est moins présent
dans celui-là, oui. Mais qui sera beaucoup plus présent dans la suite.
Son coéquipier, voilà, son collègue. Ouais. Très bien. Donc voilà, c'est les projets, parce qu'on arrive en fin d'émission. Là, ouais. Ce sont les projets, voilà, donc l'écriture donc, de la suite.
Oui, et peut-être, et donc on va voir si l'éditeur accepte ce projet-là.
C'est
un livre qui va s'intercaler, qui n'est pas un roman policier classique, mais plutôt un thriller un peu fantastique et assez noir. Voilà.
Bon, alors, affaire à suivre, comme voilà. On dit. Vous reviendrez nous en parler ?
Mais avec plaisir, hein. C'est toujours un plaisir.
Et bien, pour moi aussi, merci beaucoup Stéphane d'être venu partager cette émission avec moi et pour ce roman policier passionnant que je vous recommande vraiment pour la fin de vos vacances. C'est l'occasion, vous allez le dévorer. C'est Sans jeu ni maître et c'est aux éditions Kern. Alors, je vous rappelle la rediffusion de cette émission ce soir à 23h30 sur les ondes de Radio Occitanie. Et puis alors on se quitte avec une chanson que Victor Bussy affectionne particulièrement. Ça vous dit quelque chose, Stéphane ?
Je vous laisse la lancer.
Alors c'est Starlight de Muse.
Ah ben oui, très bien. Oui,
voilà.
Oui.
Petit clin d'œil.
Oui,
merci Stéphane, merci Alex, à Tiat. Black holes and rebels.